C'est étrange, avait remarqué Guccio. On dirait que ces gens n'ont d'autre souci que d'arriver avant nous où nous allons. La petite cité était déserte. Les habitants semblaient s'être terrés ou avoir fui.
Serait-ce notre approche, dit Bouville, qui produit ainsi le vide devant nous? Notre escorte n'est point si nombreuse qu'elle puisse effrayer.
À la cathédrale, ils ne découvrirent qu'un vieux chanoine qui feignit d'abord de comprendre qu'il voulait se confesser et les entraîna vers la sacristie. Il s'exprimait par chuchotement ou par geste. Guccio, qui craignait un guet-apens et s'inquiétait pour les coffres laissés avec les mules devant le portail de l'église, avançait la main sur sa dague. Le vieux chanoine, après s'être fait répéter 6 fois les questions, avoir réfléchi, balancé la tête et épousté son camail pelé, consentit enfin à leur confier que les cardinaux s'étaient retirés à Orange. On l'avait laissé là, tout seul.
« À Orange ! » s'écria messire de Bouville.
Là-dessus, il fut pris d'éternuement dont le bruit se répercuta dans la cathédrale entière.
« Mais par le cordieu ! » dit-il, quand il eut retrouvé souffle. « Ce ne sont point les prélats, mais des hirondelles que vos cardinaux ! Êtes-vous sûr au moins qu'ils y soient, à Orange ?»«
Sûr, » répondit le vieux chanoine, choqué du juron qu'il venait d'entendre.
« De quoi peut-on être sûr en ce monde, si ce n'est de l'existence de Dieu ? Je pense qu'à Orange, pour le moins, vous pourrez joindre les Italiens. »
Puis il se tut, comme s'il craignait d'en avoir déjà trop dit. Il avait certainement des rancœurs à assouvir, mais n'osait pas se livrer.
« Eh bien, soit ! Dirigeons-nous sur Orange, » décida Bouville avec une lassitude irritée. « De combien en sommes-nous distants ? 6 lieues également ? Va pour 6 lieues. Aux montures, les valets !»
Or, aussitôt Bouville et Guccio engagés sur la route d'Orange, 2 cavaliers à nouveau les dépassèrent, allant bride abattue. Et cette fois, les voyageurs n'eurent plus à douter que c'était bien pour eux qu'on faisait ces chevauchées. Bouville, soudain saisi d'une humeur guerrière, voulut qu'on courût sus aux 2 cavaliers, mais Guccio s'y opposa fermement.
« Notre train est trop lourd, messer Hugues, pour que nous puissions jamais rattraper ces hommes. Leurs montures sont fraîches. Les nôtres sont lasses, et surtout, je ne veux point laisser les coffres en arrière. »
« Il est vrai, reconnut Bouville, que mon bidet est mauvais. Je le sens s'arrondir sous moi et j'aimerais bien en changer. »
Ils ne furent pas autrement étonnés, parvenus à Orange, de constater que les Monsignori en étaient absents. Toutefois, Bouville s'emporta quand il s'entendit répondre qu'il fallait plutôt les chercher en Avignon.
« Mais nous sommes passés hier en Avignon » cria-t-il au clerc qui voulait bien les renseigner. « Et tout y était vide comme ma main !» « Et Monseigneur Duez, où est Monseigneur Duez ?»
Le clerc répliqua que Monseigneur Duez, étant évêque d'Avignon, il convenait de le demander à son évêché. La discussion semblait vaine. Le prévôt d'Orange, par une malheureuse coïncidence, était justement en déplacement ce jour-là, et le commis qui le remplaçait n'avait point d'instruction pour s'occuper du confort des arrivants. Ceux-ci durent passer la nuit dans une auberge fort sale et fort froide, auprès d'un champ de ruines envahi par les herbes où le vent hurlait. Assis en face d'un Bouville effondré de fatigue, Guccio pensait qu'il allait devoir prendre l'expédition en main si l'on voulait jamais rentrer à Paris, avec ou sans résultat. Un homme d'escorte, en débattant, avait eu la jambe cassée d'un coup de pied de mule et il faudrait le laisser là. 2 des montures blessaient au garrot, 2 autres avaient besoin d'être referrées. Messire de Bouville, enfin, coulait du nez que c'en était pitié. Il montra si peu d'énergie pendant la journée du lendemain et fut si désespéré en revoyant les murs d'Avignon qu'il ne fit guère de difficultés pour permettre à Guccio de se substituer à lui.
« Jamais je n'oserais me présenter devant le roi !» gémissait-il. « Mais le moyen de faire un pape, je vous le demande, quand tout ce qui porte soutane s'enfuit à notre arrivée ! Jamais plus je ne siégerai au conseil, jamais plus. En cette seule mission, je démérite de toute ma vie. »
Il s'embarrassait de soucis tatillons. Le portrait de Madame Clémence était-il bien arrimé et n'avait-il pas été gâté par le voyage ?
« Laissez-moi faire, messire Hugues, » lui répondit Guccio avec autorité.
« Et d'abord, il me faut vous loger au chaud. Vous me semblez en avoir grand besoin. »
Guccio s'en fut trouvé le capitaine de ville, et il eut si bien le ton qu'aurait dû prendre Bouville depuis le début, fit sonner si haut dans son fort accent italien les titres de son chef et ceux qu'il s'octroyait à lui-même, mit tant de naturel dans l'expression de ses exigences qu'en moins d'une heure, on vida une maison pour qu'il la pût occuper. Guccio installa son monde et coucha Bouville dans un lit bien bassiné. Puis, quand le gros homme, qui prenait hypocritement excuse de son refroidissement pour ne plus rien décider, fut enfoui sous les couvertures, Guccio lui dit «
Cette odeur de traquenard qui flotte tout autour de nous ne me plaît guère, Et maintenant, j'aimerais assez abriter notre or. Il y a ici un agent des Bardi. C'est à lui que je vais confier mon dépôt. Après quoi, je me sentirai plus à l'aise pour vous rechercher vos damnés cardinaux.
« mes cardinaux !» grommela Bouville. « Ce ne sont point mes cardinaux, et je suis plus mari que vous ne l'êtes des tours qu'il me joue. Nous conférerons de cela quand j'aurai dormi un peu, si vous le voulez, car je me sens tout frileux.
Êtes-vous bien assuré au moins de votre lombard? Pouvons-nous avoir confiance en lui?
Cet argent, après tout, est celui du roi de France. »
Guccio le prit d'assez haut.
« Ayez en l'esprit, messire Hugues, que je suis en alarme pour cet argent tout juste, voyez-vous, comme s'il appartenait à quelqu'un de ma famille. »
Il se rendit alors à la banque dans le quartier de Saint-Agricole. L'agent des Bardi, qui était un cousin du chef de cette puissante compagnie, reçut Guccio avec la cordialité qu'il doit au neveu d'un grand confrère, et il alla serrer l'or lui-même dans sa chambre forte. On échangea des signatures, puis le lombard conduisit dans la grande salle son visiteur, afin que celui-ci lui fît le récit de ses difficultés. Un homme mince, légèrement voûté, qui se tenait devant la cheminée, se retourna à leur entrée et s'écria
« Guccio Baglioni, per Bacco sei tu, c'è piacere di vederti, carissimo boccario, c'è fortuna, c'è fai qua ?»
Ce sont toujours les mêmes gens qui se rencontrent en chemin, parce que ce sont toujours les mêmes, en fait, qui voyagent. Et il n'y avait rien de tellement extraordinaire à ce que le signor Boccace fût là, puisqu'il était voyageur principal pour la compagnie des Bardi. Mais les amitiés nées au hasard des chemins, entre gens qui se déplacent beaucoup, sont plus rapides, plus enthousiastes et souvent plus solides que celles qui s'établissent entre les sédentaires.